les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe est cité à comparaître devant le Parlement le 9 mai pour s'expliquer sur la disparition de diamants d'une valeur de 15 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le président du comité du Parlement en charge des mines et de l'énergie, Temba Mliswa, en précisant que la décision a été prise hier lors d'une réunion de ce comité. Les députés veulent interroger l'ancien chef d'État sur les propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait que son pays avait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères. La commission du Parlement chargée de ce dossier a déjà sommé plusieurs anciens responsables de l'administration, dont des ex-ministres et chefs de police, de venir témoigner. Dans un rapport publié l'an dernier, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quitté précipitamment un sommet du Commonwealth à Londres pour se rendre ce vendredi dans le nord-ouest de son pays en proie à de violentes manifestations contre la corruption et le manque de services publics. Peu avant l'arrivée de M. Ramaphosa à Mahikeng, le chef-lieu de la province du Nord-Ouest, épicentre des incidents, la police a fait usage de balles en caoutchouc ce matin pour tenter de disperser plusieurs dizaines de manifestants. Le chef de l'État a appelé au calme et au respect des lois dans la province, selon un communiqué de la présidence. Cyril Ramaphosa a demandé à la population d'exprimer ses revendications par des moyens pacifiques plutôt que par la violence et l'anarchie, tout en exigeant de la police qu'elle fasse preuve de la plus grande retenue dans l'exercice de ses fonctions. Au Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé à un remaniement ministériel qui a vu notamment le départ de son chef de la diplomatie et le maintien à leur poste des ministres chargés de superviser le référendum constitutionnel très contesté prévu le 17 mai. Les détails avec Anne Botson.
Quatre ministres quittent le gouvernement et cinq autres y font leur entrée, l'équipe passant de 20 à 21 ministres. La principale victime de ce remaniement est le chef de la diplomatie burundaise, Alain-Aimé Nyamitwe, en poste depuis mai 2015, juste après le début de la crise burundaise en avril 2015, et frère du responsable de la communication présidentielle, Willy Nyamitwe. Il est remplacé par Ezekiel Nibiyira, ancien ambassadeur au Kenya et ancien patron des Imbonerakure, la controversée Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir, qualifié de milice par l'ONU. Les autres poids lourds du gouvernement restent, eux, en place, notamment le ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, le général Alain-Guillaume Bunyoni, véritable numéro 2 du régime burundais, mais aussi celui de l'intérieur, Pascal Barandagiye, et la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana. Le président a pris le soin de ne pas toucher aux trois ministres les plus importants en ce qui concerne l'organisation, l'administration et la sécurité du référendum prévu dans moins d'un mois qui vise à modifier la Constitution pour permettre à M. Nkurunziza de potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2034, a analysé un diplomate à Bujumbura.
En République démocratique du Congo, les FARDC, l'armée nationale, dressent le bilan de 4 ans de traque des groupes armés locaux et étrangers dans le Nord Kivu, province de l'Est du pays. Selon les FARDC, 1101 éléments FDLR de la rébellion rwandaise ont été neutralisés et 234 membres des groupes armés Maïmaï tués. Plus de 1000 armes et munitions ont également été récupérées, nous dit notre correspondant à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, Charlie Kasereka.
La 34e région militaire, scindée en deux zones opérationnelles, l'une s'est focalisée sur la rébellion des ADF en région des Beni, baptisée Sokola 1, et l'opération Sokola 2 pour traquer les FDLR et les groupes Maïmaï. 4 ans aujourd'hui, après le lancement de Sokola 2, un bilan riche selon le porte-parole de la 34e région militaire, l'officier Njike Kaiko, qui parle des 1101 FDLR neutralisés, ainsi que 234 membres des groupes armés tués, ajoutant que 1089 armes légères, bombes et munitions ont été récupérées par l'armée congolaise. Le major Njike Kaiko souligne que les opérations continuent sans donner un bilan quelconque sur les morts côté armée loyaliste, mais parle des 280 militaires de l'armée congolaise qui ont été transmis à la justice militaire pour manquement au droit humanitaire international. Ce bilan est présenté au moment où l'on parle de plus de 50 groupes armés toujours actifs et dans le Nord Kivu et qui sont pointés du doigt dans plusieurs camps de sécurité autour de la ville de Goma. À moins de 4 semaines, au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs cas de kidnapping suivis d'une demande de rançon sur les civils et même les prêtres catholiques sont rapportés. Charles Kasereka, Goma, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, le projet de révision de la Constitution déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale continue de susciter des réactions. Pour l'élite tchadienne, la modification de la Constitution actuelle, qu'elle qualifie de contrat social entre le gouvernement et le peuple, doit nécessairement être approuvée par référendum et non par l'Assemblée nationale. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmadjinga.
La rapidité avec laquelle le projet de loi constitutionnelle est engagé par le pouvoir montre à suffisance que la nouvelle constitution de la 4e République va passer comme une lettre à la poste sans débat contradictoire, car une trentaine de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale boycottent les activités de cette institution jusqu'au 30 avril prochain. Les évêques du Tchad déplorent et expriment leur inquiétude de la manière dont le processus d'institution de la 4e République se déroule. Yves Alangomi est le secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad.
Ce processus risque de fausser gravement les règles du jeu démocratique car il porte en germe une grave division des cœurs entre les citoyens. Un changement fondamental de cette nature devrait se faire dans le respect de la Constitution qui dit dans son article 224 « La révision de la Constitution est approuvée par référendum ».
Pour Dr Sita Kiyumbatna, Béni, juriste et ancien chercheur à l'École nationale d'administration, il y a un déficit démocratique dans ce processus.
Parallélisme de forme oblige, n'est-ce pas, sur le plan du droit. C'est qu'une fois que la Constitution de 96 a été adoptée par référendum, celle qui doit venir, n'est-ce pas, remettre en cause ne peut passer que par référendum. Ça, c'est les textes, n'est-ce pas, sur le plan juridique. Deuxième chose, on veut non seulement modifier la Constitution de 96, mais on veut changer également de république. Donc, ça dit changement de paradigme. Et là aussi, il faut expliquer le contexte. Parce que pour changer même d'une république, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des circonstances, n'est-ce pas, graves. Or là, on ne voit aucun événement majeur. Donc, il y a un problème, justement, de déficit démocratique. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont rédigé la Constitution, c'est les mêmes personnes qui les ont adoptées en Conseil des ministres. Les mêmes personnes qui vont adopter ça encore au Parlement. Donc, du coup, ça pose quand même un problème.
Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, est conscient du débat peu démocratique qui pourrait découler des discussions du 30 avril prochain pouvant aboutir à l'adoption de cette nouvelle loi fondamentale.
Je relève pour le déplorer que certains de nos collègues députés de l'opposition ont refusé systématiquement de prendre part aux travaux de la commission spéciale mise en place en vue de procéder à l'examen de ce projet de loi constitutionnelle. Je les invite humblement à se joindre à leurs collègues députés pour un débat serein sur les 10 projets de loi constitutionnelle.
Déjà, lundi dernier, le secrétaire général de la primature a, dans une note de service, demandé aux différents responsables chefs de service de faire l'inventaire dans les détails tous les biens mis à leur disposition. Une note de service qui panique le personnel de cette institution jugée budgétivore qui sera mise en chômage au seuil de cette 4e République. André Kodmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Sénégal, adoption par les députés jeudi d'une nouvelle loi électorale à moins d'un an de la présidentielle. Une législation dénoncée par l'opposition qui fait état de dizaines d'arrestations hier lors de manifestations réprimées par la police. Jean-Roger Bion.
Le projet de loi qui impose le parrainage à tous les futurs candidats à la présidentielle a été adopté par 120 députés sur 165. Avec ce nouveau texte, les autorités affirment vouloir prévenir par souci d'économie et de meilleure organisation du scrutin une inflation du nombre de candidats à la présidentielle dans un pays qui compte près de 300 partis, rappelant la présence de 47 listes aux législatives de juillet 2017. Le but unique de cette forfaiture est évident aux yeux de tous, empêcher les candidats de l'opposition de se présenter, a affirmé l'opposition. Des incidents ont marqué le vote à l'Assemblée nationale au moment où le président Macky Sall, élu en 2012 et probable candidat à sa succession en février 2019, effectue une visite en France où il devrait être reçu aujourd'hui par son homologue français Emmanuel Macron. À Dakar, plus de 50 personnes ont été arrêtées, a affirmé à l'AFP. Mayoro Faye, le chargé de communication du Parti démocratique sénégalais, PDS, le principal parti de l'opposition, dirigé par Abdoulaye Wade, président sénégalais de 2000 à 2012.
Et pour terminer l'actualité américaine, Mohamed Diabaté, un ancien chef de guerre libyen immigré aux États-Unis après avoir caché son passé meurtrier pendant la guerre civile libyrienne, a été condamné jeudi à 30 ans de prison à Philadelphie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.